Voilà, on va, pendant que les offrandes passent, tourner nos Bibles pour lire un passage dans Éphésiens qui va nous introduire au message d'aujourd'hui. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 2 et nous lirons à partir du verset 4. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vous invite à la prière. Merci, notre Dieu, de ta parole que tu nous as laissée. Seigneur, non seulement tu nous rencontres individuellement, mais Seigneur, tu nous laisses une parole éternelle, des promesses et, Seigneur, des projets que tu partages avec nous. Merci, Père, pour cette parole qui nous éclaire et qui nous aide à trouver le chemin de la vie. Te prions de nous aider à non seulement la comprendre, mais à l'assimiler, pour la mettre en pratique, te prions, au nom de Jésus. Amen. Ce texte, dans les annotations qui sont dans ma Bible, est intitulé « Le salut par grâce ». Nous sommes sauvés par grâce. Sauvés pourquoi ? Sauvés pour un projet de Dieu. Dieu a un projet pour l'homme, l'humanité, mais pour nous. Et c'est merveilleux de voir que, eh bien, nous ne sommes pas perdus comme ça dans cet univers impersonnel, mais nous avons une place. Vous savez, si parfois on est un peu découragé, c'est parce qu'on ne voit pas bien notre avenir, nous ne sommes pas sûrs et nous ressassons des choses parfois négatives, parce que le présent n'est pas toujours très idéal. Mais avec Dieu, nous savons que nous avons un espoir, nous avons un projet, nous avons un plan de vie et que Dieu a pensé à nous et que Dieu a pensé vraiment quelque chose de merveilleux. Il a des projets, des desseins de bonheur et non pas de malheur. Et il faut nous le rappeler constamment. Il nous est dit que déjà Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Ça veut dire que nous n'avions pas la vie. C'est vrai que nous avons une certaine vie de manière naturelle. Mais vous savez que cette vie s'arrête à la mort et c'est angoissant. Ce n'est pas un projet très captivant de savoir que nous allons faire un tas de choses pour s'arrêter à la mort. La Bible dit que la vie est une vie éternelle. Et l'homme pressent cela. Et c'est pour ça que l'homme recherche dans la religion, recherche dans toutes sortes de recherches de la vie, bien quelque chose qui va plus loin que ce qu'il vit, que ce que nous entrevoyons dans notre capacité de vie ici présente. Et c'est vrai que la vraie vie, c'est de le connaître, c'est de connaître Dieu. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. La vie, c'est pas simplement la vie tout court, c'est avec le Christ, c'est par le Christ, c'est en Christ, c'est au travers du Christ, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire, c'est par Christ. C'est pour ça que Christ est au centre de notre foi. Christ est au centre de nos préoccupations. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble. Et donc, ce n'est pas simplement Christ qui est ressuscité. Il nous a ressuscités. Nous sommes ressuscités avec lui. C'est aussi le sens du baptême. Bientôt, on aura des baptêmes, fin mai. Et lorsque les baptisés sortent de l'eau, eh bien, on a cette identification à la résurrection. Ensemble avec Christ, ils sortent de la mort, du tombeau de la mort, pour vivre avec Christ. C'est une image qui est très parlante. Eh bien, c'est vrai que Dieu nous a ressuscités ensemble. Nous nous identifions à cette résurrection en Christ, par la foi. Et c'est aussi le sens de la scène, quand nous répétons eh bien, ce moment où Jésus a partagé cette scène. Il a dit, eh bien, je ne prendrai plus jamais avec vous jusqu'à ce que je revienne. Donc nous avons cette espérance que la vie continue, elle ne s'arrête pas, et que nous serons toujours dans une relation avec lui. Il nous a ressuscités ensemble, afin de montrer dans les siècles à venir. Donc vous voyez, Dieu a une pensée pour l'avenir, dans les siècles à venir. Un siècle, c'est pas forcément 100 ans, hein. C'est une période de temps, des siècles, c'est des périodes, parce que Dieu a des projets. Dieu n'arrête pas d'avoir des projets, nous ne connaissons pas ces projets, nous connaissons juste notre projet humain. Ben, il a des projets, il a créé des anges, il a créé des mondes, et l'homme commence à découvrir par les télescopes eh bien, des choses incroyables. Eh bien, Dieu veut montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous. Ce qui est un mystère pour nous, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui nous est révélé, c'est que Dieu veut montrer sa grâce par Jésus-Christ. Vous savez, la grâce, c'est vrai que nous recevons la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas la comprendre, mais même les anges désirent plonger leur regard dans cette grâce et ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne sont pas concernés par ce plan, par ce projet de salut. Et nous avons eh bien, ce privilège d'être au bénéfice de la grâce, cette grâce qui sera manifestée dans les siècles à venir au travers de ce que Jésus a fait pour nous. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. C'est ce don merveilleux de la grâce par lequel nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Bien sûr, c'est en acceptant, en nous confiant dans ses promesses, en croyant ces choses que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi, parce que nous mettons notre confiance dans ce que Dieu a fait, que nous sommes sauvés, et que nous sommes au bénéfice de ce plan merveilleux de Dieu pour la vie. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pour ça que nous recevons toute chose de Dieu. Nous recevons la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas produire la vie, nous ne pouvons pas la reproduire par nos propres moyens. C'est Dieu qui l'a donnée, et il l'a donnée pour la vie éternelle. Et cette vie est en lui. Il est la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et donc ça ne vient pas de nous. De nous, nous pouvons simplement gérer. Nous sommes des gérants sur cette terre. Des gestionnaires de la vie, des gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Mais jamais, y compris nos enfants. C'est une des bases de l'enseignement sur la famille. Les enfants nous sont prêtés. Nous sommes des gestionnaires. Nous devons bien faire notre travail en tant que parents. Mais nous ne pouvons pas être possessifs, nous ne pouvons pas mettre la main ou les contrôler ou les manipuler. Cela, c'est totalement en dehors du plan de Dieu. Bien sûr, c'est un peu naturel à la personne humaine, mais nous devons nous en garder, nous en préserver. C'est un don de Dieu. Dieu nous donne des choses pour être de bons gestionnaires. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, aucune œuvre que nous puissions faire ne peut nous attribuer un mérite quelconque. C'est simplement si nous faisons des œuvres, c'est pour servir le Seigneur, c'est pour être reconnaissant et pour entrer dans cette activité dont Samuel a parlé ce matin, l'activité, le précieux trésor de l'homme. Donc nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Voyez-vous, la création, la première création dont nous sommes bénéficiaires au travers de nos parents, bon, nous ne l'avons pas voulu, nous n'avons même pas été conscients au moment de la naissance. Mais nous sommes conscients de la naissance en Jésus-Christ, parce que nous acceptons celui qui est le prince de la vie dans notre vie, et nous recevons la vie éternelle. Donc là, nous en sommes conscients. En tout cas, chaque chrétien est conscient de cela. C'est pourquoi aussi nous ne baptisons pas les enfants, parce que nous ne pensons pas qu'ils aient une conscience de ce qui se passe à cet âge-là. Mais quand ils sont conscients, eh bien, nous recevons la vie en Jésus-Christ. Nous avons créé en Jésus-Christ pour des œuvres. Voyez-vous, les œuvres sont là. Elles prouvent notre amour. de Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes, et là aussi que Dieu a préparé d'avance. Donc nous rentrons dans un plan que Dieu a préparé. Et donc, dans toute chose, nous ne pouvons que rendre des actions de grâce, parce que tout a été préparé d'avance, tout a été fait d'avance. Nous rentrons dans des choses que quelqu'un pour nous, et ce que nous appelons le Père, la mère, elle donne la vie, disons, c'est quelque chose de naturel. C'est pour ça que les hommes qui ne croient pas en Dieu s'attachent facilement à la mère, la mère terre, la mère spirituelle. En fait, tout ce qui est mère, c'est quelque chose de naturel, et c'est pour ça que c'est une des premières adorations. L'adoration de la mer, et on y revient maintenant, puisqu'on devient un pays, une nation, un monde païen. Donc le paganisme retourne à la mer tout naturellement, sans faire d'efforts. Mais le Père, c'est un peu plus difficile, parce que le Père, c'est celui qui pourvoit avec une certaine autorité, avec une certaine présence, avec un certain projet. Enfin, c'est quelque chose qui nous est moins naturel, et qui, en plus, bien sûr, est déformé. Donc l'ennemi a beaucoup déformé la notion du Père par toutes sortes de moyens pour nous empêcher de nous attacher au Père. Au Père céleste qui a créé toute chose, qui est l'origine, le consommateur de toute chose, qui est le créateur. Et donc c'est quelque chose qu'il nous faut retrouver, il nous faut, reprendre à notre compte. Alors là, il est question d'une vision, voyez-vous, la vision de Dieu pour nous. Nous rentrons dans une vision que Dieu a pour l'humanité, pour faire tout cela, tout ce que nous avons lu, et bien sûr d'autres passages dans la Bible, nous voyons que les choses ne se font pas par hasard. Il y en a qui croient que les choses se font par le hasard. Le hasard et la nécessité de Mono, il y a beaucoup de textes sur le hasard. Parce que quand on ne peut pas comprendre les choses, eh bien on dit que c'est le hasard. Mais vous savez, Dieu, il a une intention. Et cette intention, il la réalise dans un plan. Donc, quelle est la vision de la vie? Ça, c'est la vie. Et la vie est éternelle. La mort, c'est un accident. Un accident à cause de la désobéissance, à cause du péché. C'est un accident. Mais cet accident, il sera gommé. Il est déjà gommé en Jésus-Christ. Et il sera gommé définitivement. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. D'ailleurs, Paul, vous le voyez très bien, il n'avait pas peur de la mort. Et il espérait même que cette mort vienne plus vite, à un moment donné, pour être libéré de tout ce qu'il vivait, des difficultés qu'il vivait. Mais il s'est repris en disant, « Seigneur, non pas ma volonté, la tienne. Si tu veux que je te serve encore, je te servirai. » Mais la mort pour un chrétien est une libération, parce que nous rentrons dans une vie où les contraintes n'existent plus, où le péché n'existe plus, où les problèmes, les épines, enfin tout ce que la Bible dit et qui concerne ces difficultés, elles seront totalement disparues. Et nous retrouvons quand même toutes nos relations que nous avons sur la terre, dans la mesure où elles ont accepté, bien sûr, Jésus-Christ, le prince de la vie. Donc la vie, c'est quelque chose qui est éternel, qui a une origine, bien sûr d'origine qui est éternelle, et un futur qui est éternel, et un présent qui est l'éternel présent. Dieu ne vit pas dans le temps, parce que pour Dieu, le temps n'existe pas. Donc le présent est du temps aussi, c'est un temps qui dure. Donc la vision concerne le passé, le présent et le futur, et pour Dieu, c'est le présent continu. Continuel, si vous voulez. Je trouve un peu dommage que souvent, quand on parle de vision, que ce soit en entreprise, puisque moi j'ai travaillé pendant plusieurs années à établir la vision de mon entreprise, et pas des moindres, puisque c'est EADS, dans le transport spatial, et j'ai beaucoup travaillé à cette question de la vision, et je trouve dommage que les églises adoptent parfois le même contenu que les entreprises, à savoir qu'ils définissent la vision comme un projet dans le futur, un futur plus ou moins immédiat, et qui est limité dans le temps. Alors que nous, notre vision, elle n'est pas limitée dans le temps. Elle englobe tout ce que Dieu est. Notre vision doit englober cette plénitude du temps, qui n'est plus du temps, qui est un présent continu, qui englobe l'origine, puisque l'origine est en Dieu, elle n'est pas en nous. et qui englobe le futur, qui est bien au-delà de notre vécu, qui va au-delà. Parce qu'il y a des choses, la Bible nous le révèle, qui vont nous suivre. Les œuvres des saints nous suivent. Donc ce que nous faisons ici aussi, en tant que gestionnaire, eh bien, nous suit. Alors comment, je ne peux pas vous l'expliquer, mais la Bible le dit, et je crois que c'est vrai. Donc nous pouvons aussi eh bien, travailler pour l'éternité ici-bas. Donc la Bible dit que la vie vient de notre relation avec Dieu. L'origine de la vie, c'est la relation avec Dieu et avec Christ, par Christ. Il nous a rendus à la vie par le Christ. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui amène de l'importance dans la relation avec Dieu. Parce que c'est ça qui lui donne la vision de la vie, donc qui englobe l'ensemble de son activité. De toute façon, même si la vision n'est que partielle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, elle est indispensable pour ne pas tourner en rond. Quelle que soit la vision, même si elle n'est pas globale, elle nous aide à ne pas tourner en rond, que ce soit dans une entreprise qui n'a pas de vision, ça ne peut pas tourner. Et elle crée aussi une unité de tous ceux qui collaborent dans cette activité, dans cette solidarité d'entrepreneuriale, pour créer une unité, pour savoir où nous allons, une perception de l'identité commune, d'une mission commune, pour les bonnes œuvres. Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. Nous ne faisons pas simplement des œuvres qui rapportent de l'argent, comme dans une entreprise lucrative, mais nous faisons des œuvres pour que d'autres puissent trouver cette vie, pour partager le salut en Jésus-Christ. Donc nous sommes aussi amenés à une mission pour des œuvres bonnes qui, elles, durent éternellement. Nous investissons non pas dans des actions qui montent et qui descendent, qui font le yo-yo, mais nous investissons dans des actions éternelles, des personnes que nous allons voir éternellement dans le ciel, et nous pourrons partager avec elles. C'est extraordinaire d'imaginer cette relation que nous aurons éternellement avec des personnes. Amen. La vision aussi nous évite de nous disperser. Dispersion, on est tellement... Et je suis quelqu'un, Samuel, mon fils, et arrive plus à se concentrer. J'ai beaucoup de mal, des bruits, tout ça, donc il faut que je m'isole un peu. Bon, chacun sa personnalité, mais je me disperse facilement. Et c'est d'autant plus facile maintenant de se disperser avec les moyens modernes, téléphone, SMS, enfin, tout partout, ça vibre. Mais, alors, où est nos priorités? Bon, je veux dire, la vie aujourd'hui, elle nous empêche vraiment beaucoup plus qu'avant. Avant, j'avais des priorités, c'était plus facile à tenir que maintenant. Donc, la vision aussi nous aide à bien placer nos priorités. Qu'est-ce qui est en premier? Je fais un tas de choses, hop, je reviens. Non, ça c'est en premier, deuxième, troisième. Bon, je reviens à cela pour que le temps qui s'écoule ne me prenne pas sur des choses qui sont secondaires. Je voudrais insister sur le fait que chacun de vous, j'aimerais que vous ayez tous une vision. Une vision pour votre vie. Une vision pour votre travail, c'est important. Une vision pour votre mariage, une vision pour l'éducation de vos enfants, si vous en avez ou vous en voulez. Une vision pour votre ministère, une vision pour votre église. Vision, c'est important. Parce que la Bible dit que sans vision, le peuple périt. Ou d'autres traductions disent que le peuple se disperse ou se désagrège ou est sans frein. C'est Proverbe 29-18. Donc déjà la Bible, eh bien, elle nous encourage à avoir une vision pour pas nous désagréger, pour pas, eh bien, nous trouver dans des chemins de travers. Donc déjà en soi, la vision est importante. Sans vision, nous aurons une vie désordonnée, sans but précis, sans plan directeur, comme on dit maintenant, quelque chose qui nous dirige. La vision nous aide à ne pas nous engager dans n'importe quoi, n'importe comment, et avec n'importe qui, mais à savoir, avec sagesse, comment mieux orienter nos prises de décision importantes. En fait, c'est du management, tel qu'on l'appelle, tel qu'on l'apprend dans le management, mais sur des choses très importantes, ce qui est la vie éternelle. La vision représente en fait la volonté de Dieu pour chacun de nous, que ce soit individuellement ou en Église, en tant que corps, et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, Il y en a qui ont le Seigneur Jésus comme modèle, ici. Hein, on peut avoir des modèles humains, mais le Seigneur Jésus comme modèle, c'est super quand même. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ avait lui-même une vision de son séjour sur la terre. Il y en a qui sont d'accord, conscients de cela. Il avait une vision, hein. Il savait pourquoi il était sur la terre. Il l'a dit, il enseignait avant que les choses arrivent, même si les disciples ne comprenaient pas à ce moment-là, mais sa vision était claire, hein, pourquoi il était là. Donc notre Seigneur Jésus avait une vision très très forte de son séjour sur la terre, ce qui lui a permis d'accomplir quoi ? Eh bien, sa destinée, ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Vous êtes d'accord que c'est quand même plus facile de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, etc., pour accomplir son plan. Et Jésus a été un modèle de ce côté-là. La vision, en effet, nous oriente dans le plan de Dieu pour notre vie, tout simplement. Elle traduit le plan, le programme, le but, l'objectif que quelqu'un ou une église doit suivre pour accomplir la destinée, la vocation sur la terre. C'est la vision de notre être, notre identité, si vous voulez, pour accomplir le faire, pour accomplir notre mission. Donc ce passage que nous venons de lire, bien sûr il y en aura beaucoup d'autres qu'on peut lire dans cet esprit-là, eh bien nous montre que Dieu a prévu un ouvrage. Un ouvrage, c'est un projet, c'est un plan. Vous voyez, quand un architecte fait un plan, en principe, les architectes, ils aiment bien innover. Enfin, les bons architectes, ils n'aiment pas faire toutes les maisons là, qui se ressemblent dans les maisons. Ça, ils laissent ça à des entrepreneurs qui font du copier-coller. Vous avez déjà vu le copier-coller des maisons comme ça ? C'est pas terrible. Hein, bon, c'est utile, mais de là, c'est pas architectural. Les architectes, ils aiment bien partir du concret. Et même si c'est plat, vous faites une bosse. Si c'est une bosse, ils vous mettent à plat. Enfin, vous voyez, ils modèlent complètement déjà au départ le terrain. Un bon architecte, c'est ça. Hein. Il voit parce qu'il a une vision de ce qu'il veut vous donner ultérieurement d'une maison. Alors normalement, s'il tient compte de vos rêves, de vos désirs, il va les intégrer à sa vision. Mais sinon, très souvent, ils ont leur propre vision de la maison qu'il voudrait que vous ayez. Enfin bref, il a un ouvrage qu'il va constituer qui est assez complexe, hein, qui passe par des bulldozers qui vont remanier le terrain, par des sous-sols ou pas de sous-sols. Enfin bref, ils ont des idées parce qu'ils ont une vision. Et notre Dieu a une vision pour nous. Notre vie a une vision pour toi. Notre Dieu a une vision pour cette Église. Et quand nous sommes venus ici, nous avons beaucoup été bénéfices de prophètes qui sont venus, ne connaissant absolument rien de nous, de l'autre côté de la planète, et qui recevaient vraiment une révélation et qui correspondaient à des réalités de terrain, tels qu'ici, des Huguenots qui étaient là, etc., qui avaient eux aussi des projets qu'ils n'ont pas pu accomplir, qu'ils ont transférés. Et c'est pas évident, ici, de trouver des Huguenots, je dirais, en Provence, en midi de la France, c'est beaucoup plus facile à imaginer. Hein. Mais Dieu le sait, et il nous a donné des révélations très précises à propos de cette Église, et nous sommes heureux, simplement, de le servir dans ce plan. Nous savons qu'il se réalisera, parce qu'il vient de Dieu. Donc nous sommes déjà encouragés par cela. Tout d'abord, il y a un plan. Dieu a un plan. Déjà, le fait que nous soyons à sa ressemblance. Il y en a qui croient qu'ils sont à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a fait à sa ressemblance. Et donc, on peut déjà connaître un peu Dieu, puisque on sait que Dieu a envie de projet. Il y en a qui ont envie de projet ici, ou qui n'en ont pas envie, hein, ce seraient des extraterrestres. Tout le monde en a envie de projets, et des projets super. Donc vous voyez, Dieu, il est comme nous, hein, mais bien sûr, parfaitement. Il est pas, nous sommes imparfaits. Donc Dieu a des plans, des projets, et c'est super de rentrer dans ces projets, de les connaître. Et Dieu veut nous partager ces projets. J'ai pris quelques exemples, mais vous avez certainement pensé aussi à des exemples dans la Bible. Prenez Abraham. Abraham, il a eu cette vision, quand Dieu lui a parlé, de constituer un peuple de Dieu qui le dépasse largement, parce qu'il n'a même pas vu, lui, dans sa vie, la réalisation de ses promesses, et le pays de Canaan, il n'en était pas propriétaire. Il a été longtemps après sous Josué. Mais il vivait déjà dans ce projet parce qu'il était dans une solidarité de génération. Il savait que les choses allaient arriver. Et vous savez, quand on est dans un plan intergénérationnel, eh bien, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui compte, c'est de participer à ce projet pour le faire avancer et que nous soyons un des rouages de cet avancement. Et c'est ça qui nous réjouit. Et donc, nous ne pouvons pas tomber dans la dépression si telle année, nous n'avons pas tel résultat que nous attendions, etc. Vous voyez ? Donc, Abraham était dans cette vision de constituer, d'être à l'origine d'un peuple qui allait servir Dieu, qui allait aimer Dieu, qui allait marcher avec Dieu, etc. Et Abraham avait cette vision. Prenez Moïse. Moïse, il était très découragé. Il a vraiment pensé bien faire. Servir Dieu, servir son peuple, quand il a pris position pour les Hébreux. Et il a même tué un Égyptien pour le démontrer. Et là, il a pris sa claque, parce qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il attendait. Il a dû fuir. Et pendant 40 ans, il était dans le désert. Il ne s'attendait pas à ce que Dieu l'appelle comme ça. Et c'est au moment du buisson ardent que les choses se sont retournées. Il est entré dans un plan de Dieu. De Dieu. Pourquoi 40 ans après ? J'en sais rien. C'est le temps de l'épreuve, c'est vrai. Mais toujours est-il que c'est Dieu qui a son plan dans sa main et qui dirige son plan. Et nous n'avons pas besoin d'avoir de crainte. Il le mène à son accomplissement. Parfois sans nous. Et c'est ça qui est dommage. Il vaut mieux que ce soit avec nous plutôt que sans nous. C'est tout. Mais de toute façon, son plan, il le réalise. Amen. Est-ce que vous voulez être dans son plan ? Formidable d'être dans le plan de Dieu, dans un plan qui ne périt jamais, qui aboutira à coup sûr. Donc, réjouissons-nous. Moïse, il avait la vision de libérer les peuples de l'Égypte. C'est vrai que son plan, peut-être il aurait pu aller plus loin, s'est arrêté avant d'entrer dans Jéricho, dans Canaan. Mais c'est Josué qui a eu la vision d'établir le peuple dans Canaan. Et Dieu l'a utilisé pour cela. Ou prenez Néhémie. Néhémie, vous savez, une vision, je crois que ça vient toujours de ce que nous sommes préoccupés à chercher la volonté de Dieu. Parce que le projet de Dieu, la vision de Dieu, c'est lié à sa volonté. Vous êtes d'accord ? Vous, quand vous avez un projet, si vous n'avez pas de volonté, est-ce que vous croyez qu'il va se réaliser ? Admettons que vous vouliez aller, prenons des loisirs, aux Seychelles, tiens. Pense à ça, quand il y était. Et que vous ne faites rien, vous ne prenez pas de billet d'avion, vous ne prenez rien pour réaliser le projet. Vous croyez qu'il va s'accomplir ? Bien sûr, il peut y avoir le hasard. Vous avez un oncle d'Amérique là, qui vous paye tout, qui vous prépare tout. Et puis, bon, bien sûr, il vous prend même. Bon, j'exclus cette hypothèse. Il ne va jamais se réaliser. Si vous ne vous impliquez pas, c'est normal. Et donc, nous sommes impliqués dans notre projet. Donc il y a la vision et puis il y a aussi la réalisation de ce projet. Et Néhémie, sa vision est venue du fait qu'il a entendu, parce qu'il était à Babylone, donc il a entendu que le temple était reconstruit, donc ça c'était une bonne chose, mais que les murailles étaient détruites. C'est-à-dire que le peuple de Dieu n'était pas allé jusqu'au bout d'un projet de reconstruction de Jérusalem, et donc les temples, les murailles étaient détruites, les portes étaient détruites, etc. Et il a réalisé le déshonneur du peuple de Dieu, le déshonneur. Vous voyez, la vision est née du fait qu'il a pris conscience d'un seul coup du déshonneur. Des murailles, c'est quelque chose qui protège. Des murailles, c'est quelque chose qui donne un certain honneur à un peuple qui peut se préserver des attaques, de n'importe quelle attaque, quoi, et qui peut garder une intégrité, on appelle ça une subsidiarité maintenant, disons un certain pouvoir d'autonomie, quoi. Et de ne pas être à la solde, de l'esclave de tout le monde. Donc Néhémie a pris conscience de cela et il a reçu ce projet de rebâtir les murailles de Jérusalem. Voyez-vous, c'était un élément d'un grand projet. Ce n'était pas le temple, il avait été fait par Esdras, ce n'était pas d'autres conquêtes par la suite, c'était juste les murailles. Mais quel projet extraordinaire qui a transformé la vie de Néhémie. Prenez Jérémie. Jérémie avait une vision aussi. Et Dieu lui a dit, eh bien, je t'utiliserai pour arracher, bâtir et planter dans les nations. Il avait cette vision qui l'a motivé. Une vision, c'est quelque chose qui nous motive de l'intérieur. Vous avez Ézéchiel. Ézéchiel, il a été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Comme sentinelle. Vous connaissez Marc Brisebois, pour ceux qui l'ont vu. D'ailleurs, m'écrit un mail, si on veut le réinviter, il passera en fin d'année. Avec un groupe de louanges, d'ailleurs, je crois, en Irlande, enfin bref. Mais là, il pourra passer qu'en semaine. Il ne laisse pas le dimanche, mais sa semaine. Mais lui, il a reçu cette vision d'être une sentinelle. Et si vous allez sur son site, c'est sentinelle. Sentinelle pour les nations, prophète pour les nations. Donc, Ézéchiel a reçu cette vision de sentinelle. Et Jésus, c'était quoi la vision de Jésus ? Qui peut la résumer en une petite phrase. Quelle est la vision de Jésus ? Suite à tout ce que je vous ai indiqué comme vision des autres hommes de Dieu, comment vous résumeriez la vision de Jésus ? Peut-être que vous la résumeriez mieux que moi, c'est pour ça que je suis à votre écoute. La manifestation de l'amour de Dieu, ça c'est un projet extraordinaire, c'est vrai. On n'a jamais connu le Père dans cet amour, c'est vrai. Prendre le péché du monde, oui. Salut l'humanité. Obéir au Père. Ouais, obéir au Père. Ouais. Non, c'est vrai. Pardon ? L'annonce du royaume. Ouais. Réconcilier avec le Père. Ouais, ouais. Bon, moi, je dirais simplement, c'est la restauration de l'humanité, parce que la Bible dit que c'est le nouvel Adam. Hein. Il y avait l'ancien Adam, dont nous héritons naturellement, la vie et la mort. Mais Jésus, c'est le nouvel Adam, c'est le dernier Adam, c'est celui qui a restauré le plan initial de Dieu, qu'il a rétabli dans sa destinée éternelle finale, telle que Dieu l'avait imaginé au départ et que l'homme l'a gâché. Donc Jésus est l'homme parfait, et Dieu parfait, et il est Dieu, mais l'homme parfait. Et c'est notre modèle, il a restauré l'humanité. Donc il a donné le salut, mais le salut au sens de wholeness, c'est-à-dire la totalité du salut, hein, pas simplement le salut spirituel, salut, mais le salut de l'âme, le salut du corps. Hein, parce que si nous souffrons dans notre corps aujourd'hui, eh bien la résurrection est là pour nous dire un jour nous ne souffrirons plus jamais. Plus jamais, parce que nous aurons un nouveau corps, comme celui de Jésus, qui ne peut pas souffrir. Voyez. Donc c'est le salut parfait, c'est la restauration de l'humanité. La vision est d'abord un projet. Un projet. Voulu par Dieu et qui se forme dans l'esprit du croyant. Pas toujours instantanément, mais il se forme à partir du moment où nous avons le cœur de Dieu. Cherchons le cœur de Dieu. Et le Seigneur forme en nous cette vision par l'action du Saint-Esprit. Et ce projet après, cette vision devient un projet de vie de celui qui reçoit, eh bien, qui le reçoit, qui reçoit cet appel. Et s'il y consacre sa vie, son histoire, il obtient la faveur de Dieu et des hommes. Parce que les hommes savent reconnaître ce qui vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu est parfait. Bien sûr, nous mettons de l'imparfait dans ce que nous faisons, mais si nous restons le plus obéissants possible à Dieu, eh bien, il y a une part de perfection qui va vraiment se manifester et nous obtenons la faveur de Dieu. Ce qui est dit des premiers disciples, ils obtenaient la faveur de Dieu et des hommes. Qui louaient hautement ce qu'ils faisaient. Ils avaient établi à l'époque des œuvres sociales. Maintenant, en France, bien sûr, on a quand même eu cet héritage chrétien pour prendre soin des pauvres, etc. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et les disciples, ils étaient vraiment cette cellule qui avait établi des projets sociaux, que ce soit pour les veuves, les orphelins, les enfants, etc. Donc un plan, le plan de Dieu. En résumé, je dirais que l'esprit du Père et du Fils nous libère du monde, c'est-à-dire des préoccupations limitées de nos projets. Le monde, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on peut toucher, c'est la science, si vous voulez. Hein. Tout ce qui n'est pas scientifique est rejeté enfin, par les pays rationalistes dont nous sommes, hein, sous prétexte qu'il y a des choses qu'on voit pas. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas qui existent. L'ouïe est limitée, les chiens entendent des sons qu'on n'entend pas, notre vue également. Maintenant, bien sûr, nous avons des télescopes, nous avons des choses qui nous permettent de voir autre chose, qui ouvrent. Mais il y a bien au-delà de ce que nous faisons avec ces outils, hein, et qui existent. Et tout cela, ça vient de Dieu. Donc, restons dans l'humilité. Donc, ce projet, il conduit aussi, bien sûr, à des buts intermédiaires. Et je voudrais juste terminer là-dessus pour la vision de l'Église. D'ailleurs, cet après-midi, nous avons quelques interviews pour illustrer ce projet. Et ce projet que l'Église a reçu, c'est effectivement d'être une lumière dans ce monde, mais aussi dans cet endroit qui a été choisi par Dieu, Aubergenville, et bien sûr sa région, le Mantois, pour que l'Église ici, qui est appelée à rentrer dans ce plan, puisse vraiment être une lumière, un phare, puisse éclairer. Éclairer quoi ? Obtenir quoi comme projet ? Eh bien, le premier projet, c'est d'avoir des familles qui sont dans la dignité et l'excellence. Des familles. Aujourd'hui, bien sûr, la notion de famille est décriée, bien qu'on en souffre. Tous les psychologues aujourd'hui reviennent à la notion de famille, souvent balancier d'ailleurs. Hein, mais les psychologues, c'est une chose, et le vécu, c'est autre chose. Dans le vécu, on voit les divorces, dans le vécu, on voit les séparations, tous les problèmes que vous connaissez. Hein, je ne vais pas décrire ici. Et pourtant, la famille, c'est la première chose que Dieu a créée quand il a créé l'homme. Il a créé le couple. Une bénédiction ajoutée, c'est les enfants pour, bien sûr, reproduire eh bien, la famille. Et c'est un lieu d'abord de solidarité filiale, générationnelle. Un lieu de solidarité qui est inconditionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des conditions. S'il y a ça, on se quitte. Non, on ne peut jamais se quitter. En famille, on ne peut pas. Dans une église, c'est le deuxième lieu de solidarité qui est plutôt la sécurité spirituelle. Un leader, un berger, doit avoir une vision de ce qui se passe, des dangers, etc., et préserver pour qu'il y ait la paix dans une église, pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il y ait la joie qui puisse s'établir. Parce que vous voyez bien que la joie, elle est éphémère hein, dans le monde, et avec tous les dangers, la joie disparaît facilement. Donc il y a une sorte de gardien qui doit être là, et pour moi c'est le pasteur berger, comme dans une bergerie, hein, qui met dans un enclos le soir, qui veille à ce que les prédateurs ne viennent pas, etc. Mais dans une église, on peut très bien changer d'église. Hein. Bien sûr, il y a des visions de certains pasteurs qui disent oh, vous êtes baptisé ici, vous faites partie de cette église. Bon, je sais qu'il y a des visions de ce genre-là, je ne crois pas du tout à cela. Non. Une église locale, c'est une église dans laquelle on accueille des gens qui, peut-être pas tout de suite au début, mais qui petit à petit adoptent la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes projets pour collaborer ensemble. Nous sommes là non pas pour nous garder les uns les autres, hein, comme si on avait besoin de se garder, mais pour faire une équipe, pour réaliser le projet de Dieu pour ici. Et c'est ça pour moi. C'est pour ça que nous sommes tous des adultes. Il n'est pas question de jouer à la manipulation entre un pasteur et ses ouailles. Moi, je trouve ça abject et aberrant, parce que ça ne rentre pas du tout dans la vision de Dieu. Mais c'est des adultes qui comprennent, au travers d'une vision, que nous collaborons ensemble vers un but, un projet magnifique. Et à ce moment-là, nos préoccupations, et je suis content que c'est le cas de cette Église, nos préoccupations après les cultes, entre autres, mais dans la semaine, c'est de voir où en sont ces différents projets pour les faire avancer, les projets famille, Église, école, ville et société. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut promouvoir davantage ce que Dieu veut pour nous ici, etc. Et c'est comme ça qu'on est dans une relation d'adulte pour entrer et contribuer au projet de Dieu. Donc, le premier élément de la vision du futur, c'est la famille, qui, bien sûr, tout le monde le dit, y compris tous les pasteurs, une église saine, c'est composé de familles saines. Il peut y avoir des problèmes dans les familles, comme partout ailleurs, mais il faut y travailler pour amener la bonne santé dans les familles. Et à ce moment-là, l'Église aura beaucoup de chances d'être en bonne santé. Sûr, il y a d'autres enjeux dans l'Église que dans la famille, puisque là, on est en train d'essayer d'aller plus loin que le cercle intergénérationnel. On veut accéder à d'autres buts. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que nous, on a commencé par une église de maison, Saint-Martin-la-Garenne, et ça se passait extrêmement bien. Extrêmement bien. Je suis étonné. Moi qui n'avais pas une vocation de pasteur au départ, j'avais cette responsabilité, ça se passait bien. Parfois, on arrivait jusqu'à 100, 110 chez nous. Bon, on a une grande propriété, c'est vrai. À ce moment-là, on ne savait plus où mettre les enfants. Bon, il y en avait partout, sous-sol, dans tous les endroits. Et nous, avec Michel, on avait un cœur d'évangéliste. On s'est rencontrés à Paris c'était juste après 68, hein, il y avait encore... les pavés, ils volaient plus, mais il y a les hommes qui volaient par les fenêtres, l'extrême droite. Ils faisaient un sentier, ils défenestraient les gens. Donc, c'était quand même un endroit, parce que moi, j'avais un stand avec Michel à sentier. Je peux vous dire que les baffes, j'en ai reçu, hein, quand c'est même allé plus loin. Mais on était dans la joie, on était évangélistes. Et on a dit, nous, on ne veut pas simplement une église de maison, on veut... atteindre la ville, on va atteindre la société. Et donc le Seigneur nous a montré cet endroit. Mais à partir du moment où on a cet endroit, eh bien les foudres de l'enfer, le ciel nous est tombé dessus, dès qu'on a voulu commencer l'évangélisation. Donc vous voyez, l'ennemi, il a une horreur du plan de Dieu. Dès que vous allez plus loin dans le projet, dès que vous voulez étendre les cordages de votre tente. Et donc, bien sûr, le deuxième niveau de projet, c'est d'établir une église saine, spirituellement saine, qui puisse permettre à toutes les personnes d'entrer dans leur plein potentiel. Et moi, c'est mon objectif en tant que pasteur, c'est d'aider chacun à rentrer dans son plein potentiel. Pas dans celui que moi, j'ai envie pour vous, mais dans celui que Dieu a envie pour vous. Et moi, je dois prier pour ça, pour vous encourager à rentrer dans votre potentiel. Et c'est là que le projet de Dieu peut aboutir. Amen. Un troisième objectif de projet, c'est une école de formation pratique. Nous avons reçu ça dans l'Église, où moi je bénis le Seigneur pour les écoles de formation théologique, biblique, hein, donc théologique à Vaux-sur-Seine, biblique à Nogent-sur-Marne, bon, c'est des objectifs un petit peu différents. Mais aussi ici, moi je vois les gens grandir, les chrétiens grandir, parce que nous avons des cas pratiques ici, des choses pratiques. On ne les lit pas dans les livres, on les vit en live. On voit des gens arriver, on a vu ici les satanistes, on a vu des choses comme ça, etc. Et on apprend sur place, et on sait comment gérer, et on en parle, et on prie, etc. Et dans nos réunions de prière, on apprend des choses, vous voyez. Et on apprend la vie, on apprend la vraie vie. Alors, les écoles de formation extérieure sont des extensions. Merci pour l'école de la Source, merci pour toutes ces écoles, etc. Et on doit collaborer entre elles. Et récemment, il y a un colloque là-dessus. Mais nous, en premier lieu aussi, après la famille, l'Église, c'est une école de formation pratique de disciples. Et nous appelons pratiquement, et nous prenons les soins les uns des autres pour nous aider dans tous ces objectifs. Ensuite vient la ville dans laquelle nous sommes. Dieu veut nous bénir dans cette ville. Et il veut que nous soyons bénédiction pour cette ville et bien sûr les villes environnantes. Mais là, nous sommes déjà dans un cercle où nous sommes moins responsables de ce que nous faisons parce que nous n'avons pas tous les moyens. Nous avons le moyen d'influencer la ville en permettant des entreprises de venir sur la ville, en permettant à ce qu'il y ait des directeurs qui puissent aller dans des lieux, que ce soit les écoles, Renault, pourquoi pas. Hein. On avait un cadre de Renault, mais pourquoi pas un directeur de Renault, et que nous devons soutenir et que nous devons aider à être un chrétien solide. Voilà, donc nous avons ce lieu de solidarité géographique dans lequel nous pouvons eh bien, avoir une influence. Et ensuite, la société. Là, nous sommes tous preneurs. Nous sommes tous dans des sociétés, des associations, des projets sociaux, économiques, industriels, associatifs. Et là, nous devons entrer des ambassadeurs. Hein. Nous avons des personnes qui travaillent sur la défense. Eh bien, Bruno, Florence, Yafi, bon, qui sur le lieu de travail, essayent justement de promouvoir l'évangile pour partager ce projet de Dieu dans leur endroit. Et donc, nous avons là aussi une influence à avoir, dont nous ne sommes pas responsables directement, parce que nous n'avons pas tous les moyens. Mais en tout cas, nous pouvons amener ce plan de Dieu, des bénédictions de Dieu, les bénédictions du royaume dans ces lieux où nous sommes. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à embrasser la vision que Dieu a pour nous, bien sûr dans l'Église, mais aussi individuellement pour chacun d'entre nous. Et je vous le souhaite, que vous puissiez vraiment avoir cette assurance que quoi que ce soit qui arrive, vous pouvez rappeler à Dieu que c'est lui qui vous a mis dans cette situation et que c'est lui qui va vaincre, c'est lui qui va avoir la victoire. Et c'est ça qui nous donne la force pour continuer, pour marcher de l'avant et pour remporter de nouvelles victoires. Je vous invite à prier. Seigneur, tu as dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Ce n'est point par les œuvres pour que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, nous te remercions parce que tu as préparé des œuvres d'avance dans un plan. Seigneur, ce n'est pas quelque chose de décousu, tu sais ce que tu fais. Et nous te remercions de ce que tu nous fais la grâce d'entrer dans ce plan. Tu nous y invites d'ailleurs et nous te demandons que nous puissions vraiment être disponibles et disposé à y entrer pleinement, afin de nous réjouir ensemble. Réjouir avec toi et réjouir dans l'éternité, Seigneur, de ce projet dont nous pourrons parler dans l'éternité, Seigneur, de ce que nous avons pu collaborer avec toi, malgré les résistances de l'ennemi, malgré les difficultés. Et Seigneur, cela est déjà une joie pour nous, en espérance. Que ton saint merveilleux nom soit béni, Père, au nom de Jésus, te prions.